Bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de vous voir tous. Quelle est la première commission? Allez-y et notez votre réponse dans vos notes. Qu'est-ce que la première commission? Très bien, en fonction de la quantité d'informations que vous écrivez, quelle est la deuxième commission? Encore une fois, allez-y et notez votre réponse dans vos notes. Maintenant, si vous n'êtes pas sûr de ce que sont la première et la deuxième commission, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Nous allons en parler aujourd'hui. Mais si vous pensez savoir ce qu'elles sont, notez-le. La première et la deuxième commission. Maintenant, j'ai une question un peu plus difficile. Comment les premières et deuxièmes commissions vous impliquent-elles tous? Et par vous tous, j'entends chacun d'entre vous, tout le monde dans cette salle, tout le monde dans le monde, que vous entendiez ceci assis dans une salle, peut-être assis dans votre salon. Comment la première et la deuxième commission vous impliquent-elles tous? J'avoue que j'ai dû, en préparant ce message, ralentir le rythme et vraiment y réfléchir. En quoi chacune de ces commissions vous concerne-t-elle tous maintenant? Maintenant, une commission, juste le mot lui-même, une commission est une instruction, un commandement, ou un devoir donné à une personne ou à un groupe de personnes. C'est donc ce qu'est une commission, par définition. Par exemple, un artiste est chargé par une personne, généralement quelqu'un de riche ou d'aisé, de produire une peinture ou une œuvre d'art. Les artistes sont donc souvent mandatés pour le faire. Léonard de Vinci, Michel-Ange, ont souvent reçu des commandes pour réaliser de grandes œuvres d'art. L'une des plus célèbres œuvres d'art commandées est la Mona Lisa. Elle se trouve au Louvre, en France, et j'ai eu l'occasion de la voir. C'était un vrai spectacle, plus que la peinture elle-même, rien que de voir tous ces gens debout à prendre des selfies. Je ne vous dirai pas ce que j'ai fait avec mon selfie, ni même si j'ai pris un selfie. Mais c'était le cas, il y avait pas mal de monde pour le voir. Ils avaient des cordes, et tout le monde essayait d'avoir un aperçu de cette œuvre d'art. Mais c'était une pièce commandée par un riche gentleman qui voulait que la peinture soit faite. Et encore une fois, ces artistes sont souvent commandés par des personnes très riches ou influentes. Un officier breveté, dans l'armée, est une personne sélectionnée pour diriger des troupes. L'article 3, ou l'article 2, section 3 de la Constitution donne au président le pouvoir de nommer un officier dans l'armée. Et les officiers commissionnés sont différents des personnes enrôlées. Les hommes et les femmes qui s'engagent volontairement dans l'armée doivent gravir les échelons, alors qu'un officier commissionné a un grade dès le départ. Il s'agit donc d'une distinction très importante. L'officier breveté reçoit ce grade dès le départ. Un commissaire de police, nous avons tous entendu parler d'un commissaire de police, cette personne est à la tête de l'ensemble des forces de police. Si vous pensez à la ville de New York, la plus grande ville des États-Unis, il y a en fait plusieurs chefs de police, et je l'ai appris en faisant des recherches. Il y a plusieurs chefs de police dans la ville, mais il n'y a qu'un seul commissaire. Et ce commissaire est responsable de tous ses chefs. Et ce commissaire reçoit son autorité du maire. Et un commissaire de police, est une position très puissante. Devinez combien le commissaire de police de New York gagne chaque année? Devinez. Vous avez le chiffre en tête. Je ne l'aurais pas deviné, mais un quart de million de dollars par an. C'était il y a 6 ans, donc avec l'inflation, il est probablement millionnaire. Mais, un quart de million de dollars pour être commissaire de police d'une ville, dans ce cas, la ville de New York, qui est la plus grande ville des États-Unis. Mais le travail de ce commissaire consiste à avoir une vue d'ensemble, et à donner le ton en matière d'application de la loi. Frères et sœurs, ce que je veux dire, C'est que je veux vraiment que nous comprenions la signification et l'importance d'une commission et ce que cela signifie. Et les hommes comprennent cela, ils comprennent ce qu'est une commission et qu'elle est très importante. Maintenant, il y a deux raisons très importantes pour lesquelles l'Église de Dieu existe, deux raisons très importantes, et elles sont d'accomplir la première et la deuxième commission. C'est une raison très importante pour laquelle l'Église de Dieu existe. Alors, frères, comprenons la première et la deuxième commission, et, ce qui est tout aussi important, comprenons comment chacun d'entre vous, comment je fais partie de l'accomplissement de ces commissions. Maintenant, pour comprendre la première et la deuxième mission, nous devons comprendre Jésus-Christ lui-même. Il est très important pour nous de comprendre sa vie, comment il est arrivé à sa mission, à son travail. Mieux nous pouvons comprendre cela, mieux nous nous positionnons pour être en mesure de mieux comprendre la première et la deuxième commission. Tournez-vous vers Ésaïe 9. Ésaïe 9. Revenons en arrière et allons à une époque bien avant que Christ ne marche sur la terre. Ésaïe 9. Un verset familier que nous allons lire ici, Ésaïe 9, chapitre 6, ou excusez-moi, verset 6, Ésaïe 9, 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, le gouvernement sera sur son épaule, et son nom sera appelé Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Nous voyons donc ici que la naissance d'un enfant est finalement prophétisée, et que cet enfant a un rôle important à jouer. Beaucoup de choses sont mises sur ses épaules proverbiales, dès le début, comme nous le voyons. Nous voyons donc que, dès le début, cet enfant, qui, bien sûr, serait Christ, avait un but très important. Luc, chapitre 1. Luc, chapitre 1. Nous venons de lire une prophétie. Les prophéties sont très importantes, les Écritures. Maintenant nous allons voir cette prophétie s'accomplir. Luc, chapitre 1, verset 35. Luc, chapitre 1, verset 35. L'ange prit la parole et lui dit, « C'est Gabriel qui parle à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est pourquoi l'être saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Nous sommes donc en train de voir, ce qui est techniquement une prophétie parce qu'elle a eu lieu juste avant, mais maintenant nous sommes arrivés au moment où cette prophétie que nous lisons dans Ésaïe 9 commence à s'accomplir réellement. Nous voyons, et nous le savons, que Jésus-Christ est manifestement le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. C'est une position très puissante, une personne très puissante. Et en tant que fils de Dieu, il devait être différent. Il devait être différent de tous les autres enfants qui sont nés jusqu'à à ce moment-là dans le temps et depuis. Luc, chapitre 2. Allez juste un chapitre plus loin, Luc, chapitre 2. Nous allons juste voir que Christ est né. Nous allons en quelque sorte marcher avec lui, dans et tout au long de sa vie. Donc nous allons le voir maintenant, lui en tant que jeune homme. Luc, chapitre 2, nous le reprendrons au verset 41. Luc, chapitre 2, verset 41. Or ses parents allaient à Jérusalem chaque année à la fête de la Pâque. C'est une référence aux jours saints du printemps, les jours saints du printemps approchent rapidement, tout le monde. Et quand il eut 12 ans. Donc lui, maintenant il est évidemment né, il a 12 ans, il est un adolescent. Ils montèrent à Jérusalem selon la coutume de la fête. Alors, parents, prenez note. Vous voyez un enfant de 12 ans qui accompagne ses parents aux festivités, aux jours saints. Parents, prenez note. Il est de notre responsabilité de nous assurer que nous amenons nos enfants au service de Dieu. Qu'il s'agisse d'un service de sabbat ou d'un service de jour saint, il est de notre responsabilité de nous assurer que nous exposons nos jeunes enfants à ces choses. Si vous pensez à un enfant de 12 ans, il n'est pas en mesure de décider s'il veut assister à l'église de Dieu ou à un service de jour saint. Cet enfant n'est pas en mesure de prendre cette décision. Et si vous y réfléchissez en tant que membre de l'église, nous ne voudrions même pas que ce soit une décision qu'il ait à prendre. Nous sommes ici pour toutes les raisons que nous connaissons pour être ici, toutes les bonnes raisons que nous connaissons pour être ici. Un enfant n'est pas en mesure de prendre cette décision pour lui-même. Maintenant, l'un des défis auxquels nous pouvons être confrontés est que, en tant que membre, vous assistez aux réunions et que votre conjoint n'y participe pas. Que se passe-t-il alors? Que se passe-t-il alors? Est-ce que cela permet à cet enfant de ne pas participer automatiquement ou de faire le choix de ne pas participer à l'église de Dieu? Non, ce n'est pas le cas, mais cela rend la tâche plus difficile. Mais le conseil que je vous donne, en tant que part qui assiste aux offices, c'est de vous battre avec chaque once de votre être pour vous assurer et faire votre part pour vous assurer que cet enfant assiste aux offices de Dieu, qu'il est exposé aux vérités de Dieu. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous assurer que cet enfant entend la vérité de Dieu. Nous voyons, ici, que Jésus-Christ, bien sûr, ses parents se sont assurés qu'il était présent. Luc, chapitre 2. Très bien. Nous allons reprendre, verset 43, « Et quand ils eurent accompli les jours, comme ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta en arrière à Jérusalem, et Joseph et sa mère ne le savaient pas. Mais eux, supposant qu'il était dans la troupe, firent une journée de chemin, et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Et ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Où est-il allé ? Il est parti. Nous devons les retrouver. Et il arriva, verset 46, qu'après 3 jours ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et leur posant des questions. Jeunes gens, prenez note. Nous parlions juste aux parents, mais prenez note. Il s'agit de Jésus-Christ, mais chacun d'entre vous, en tant que jeune, peut s'asseoir, écouter et poser des questions. Vous n'avez pas besoin d'être Dieu dans la chair pour faire cela en tant qu'enfant. Vous pouvez écouter les choses qui sont enseignées. Vous pouvez écouter vos parents qui vous enseignent ces choses. Tu peux écouter le personnel du camp. De toutes les manières différentes dont vous êtes exposés aux vérités de Dieu, vous pouvez vous asseoir et écouter et même aller au-delà, vous pouvez poser des questions. C'est ce que nous voyons Christ. Ici, faire. Et quel âge avait-il? Il avait 12 ans. Maintenant, peut-être que ces questions étaient plus avancées que celles d'un enfant moyen de 12 ans, mais vous notez qu'il écoutait et posait des questions. C'est quelque chose que chacun d'entre nous peut faire, en particulier, ou même en tant que jeune. Nous sommes donc en train de voir comment Christ est arrivé. Vous n'avez pas autant de détails. C'était évidemment un aperçu de la vie du Christ en tant que jeune personne. Mais elle se taisent pendant un certain temps, et puis Christ finit par émerger. Matthieu. Chapitre 3. Matthieu, chapitre 3. Jetons-y un coup d'œil. Matthieu, chapitre 3, nous reprendrons au verset 13. Matthieu, chapitre 3, verset 13. Et rappelez-vous ce que nous faisons, frères, nous parlons de la première et de la deuxième commission. Et ce que je veux dire, c'est que pour mieux comprendre la première et la deuxième commission, nous devons comprendre la vie de Christ, sa mission et ce qu'il a été envoyé ici pour faire. C'est donc ce que nous allons faire. Matthieu, chapitre 3, nous reprendrons au verset 13. Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean le lui interdit, disant, « J'ai besoin d'être baptisé par toi. Pourquoi viens-tu me voir? C'est toi qui devrais me baptiser, c'est ce que Jean dit. » Jésus, prenant la parole, lui dit, « Qu'il en soit ainsi maintenant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. Alors il le souffre. Le baptême est donc assez important pour que Christ lui-même ait été baptisé. Dieu manifesté dans la chair a été baptisé. Cela a choqué Jean, « Pourquoi es-tu ici pour que je te baptise ? C'est toi qui devrais me baptiser. Je n'en suis pas digne. » Mais Christ a dit, « Vous savez quoi, souffrez-le, laissez-le faire. Cela doit être fait pour accomplir la justice. Mais pensez à votre baptême, et pensez au fait que Christ a été baptisé. Quelle est l'importance du baptême ? Très important. Nous voyons, immédiatement après avoir été baptisé, en parcourant Matthieu ici, dans Matthieu 4, nous voyons que Christ a été tenté par Satan, et Satan a utilisé ses meilleurs trucs pour lui et ils n'ont pas fonctionné. Ils ont échoué lamentablement. Christ a manifestement passé le test. Il a été tenté, mais il a passé les tests. Et c'est une fois qu'il a passé ce test, frère, que son ministère a officiellement commencé. D'accord ? Reprenons dans Matthieu 4, verset 17. Matthieu 4, verset 17, à partir de ce moment. C'est après que Christ ait été tenté, qu'il est passé et qu'il se soit rétabli, à partir de ce moment-là, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Très bien, donc son ministère avait officiellement commencé, cependant, nous voyons immédiatement quelque chose d'intéressant qui a eu lieu. Continuons à lire. Verset 18, Jésus, marchant le long de la mer de Galilée, vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Nous voyons immédiatement que Christ a pris la décision de ne pas travailler seul. Il a décidé de ne pas faire cela tout seul. Il est maintenant Dieu manifesté dans la chair. Nous avons vu très tôt ce dont il était capable à l'âge de 12 ans. Nous savons tout ce qui a été dit de lui dans Ésaïe, et tous les versets qui parlent de ce qu'il venait faire, et pourtant, malgré cela, il avait besoin d'aide, il voulait de l'aide. Et immédiatement, il a demandé l'aide de deux frères. Et je crois l'avoir lu ici, et aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Ils ont donc obéi. Il a rassemblé ses hommes, il les a formés, afin de l'assister. Maintenant, à ce stade, Christ est pleinement préparé, il a son équipe, qu'est-il allé faire ? Matthieu 9. Matthieu, chapitre 9, verset 35. Matthieu, chapitre 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Mais, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle s'évanouissait et se dispersait, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Christ a voyagé en prêchant l'évangile et en étant un berger pour les moutons. Il a nourri le troupeau physiquement, nous ne sommes pas allés au miracle, mais vous pensez aux poissons et au pain, mais plus important encore, il a nourri ses gens spirituellement. Et les 12 disciples l'ont aidé tout au long du chemin. Luc 9. Luc 9. Ces deux hommes sont finalement devenus 12, et ils ont aidé Christ à remplir sa mission tout au long du chemin. Luc, chapitre 9, verset 1, puis il convoqua ses 12 disciples, et leur donna le pouvoir et l'autorité sur tous les démons, et de guérir les maladies. Et il les envoya prêcher le royaume de Dieu, et guérir les malades. Donc ces hommes faisaient exactement la même chose que Christ. Il les a recrutés, il les a formés, et il leur a donné l'autorité pour faire exactement ce qu'ils faisaient. Et les choses se passaient plutôt bien. Ils étaient très efficaces. Les foules grandissaient. Beaucoup de gens suivaient. Il y avait des hauts et des bas, Mais les choses allaient bien en termes d'accomplissement de la mission du Christ. Mais finalement, le moment est venu pour Christ de quitter la scène. Jean 16. Son ministère terrestre ne pouvait pas se poursuivre de cette manière pour toujours. Jean 16, verset 16. Jean 16, verset 16, « Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. » Je lis cela, frères, pour nous aider à essayer de nous mettre à la place des disciples. Ils voient cet homme puissant, qu'à ce stade, ils reconnaissent comme Dieu manifesté dans la chair. Il leur avait donné le pouvoir et l'autorité pour faire tant de choses, y compris prêcher l'évangile et nourrir les brebis perdues. Et voilà qu'il leur dit soudain, « Je m'en vais. » Imaginez l'horreur. « Quoi ? Où vas-tu ? » « Je vais vers mon Père. Comment pourrons-nous continuer tout ce que tu nous as appris à faire ? Comment pourrons-nous continuer tout cela sans que tu sois là ? » C'est une question naturelle. C'est une question que tout le monde se pose. C'est une question que je me pose. C'est une question que vous vous posez. Finalement, Christ s'est sacrifié, s'est laissé tuer pour des raisons que nous connaissons, des raisons très importantes, et il a été ressuscité. Maintenant, après sa résurrection, il avait une tâche très importante à l'esprit, une série de tâches, ou un ensemble de tâches. Il avait des tâches très importantes à l'esprit. Matthieu 28. Matthieu, chapitre 28. Christ est manifestement mort. Il était dans la tombe. Il avait été ressuscité. Maintenant, il interagit avec ses disciples, il le voit revenir d'entre les morts et il les rassemble. Et juste avant de s'élever, il avait quelques instructions pour eux. Matthieu 28, 19. C'est Christ aux disciples, « Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Ces hommes ont donc reçu l'ordre d'enseigner toutes les nations, ou on pourrait aussi dire de faire des disciples de toutes les nations. Ils devaient baptiser comme lui a été baptisé, et qu'allaient-ils enseigner ? Ils devaient leur apprendre à observer tout ce que je vous ai commandé. Nous venons de lire ce que l'on a appelé la Grande Commission. Christ a chargé ses disciples d'aller de l'avant et de faire les choses que je viens d'expliquer. Rappelez-vous ce que nous avons dit au début au sujet d'une commission. Comme un artiste commissionné ou un officier militaire, les disciples sont commissionnés par un personnage plus puissant qu'eux, que ce soit quelqu'un de riche ou le président dans le cas d'un officier de l'armée. De même, comme un officier commissionné, ils reçoivent leur grade avant d'assumer pleinement leurs fonctions. Ces hommes étaient nouveaux. Ils avaient un peu d'expérience, mais ils ont reçu cette grande mission avant même de commencer. Le Saint-Esprit n'avait même pas encore été déversé, mais ils ont reçu cette grande commission. Comme un commissaire de police, ils sont très puissants. Ce sont donc des positions très puissantes que ces hommes assumaient, qu'ils en soient conscients ou non. Je soupçonne qu'ils en étaient conscients. Mais qu'ils s'en rendent compte ou non, ce sont des positions très puissantes qu'ils assumaient. Et leur objectif, leur tâche, était de voir la situation dans son ensemble, et de donner le ton à tout ce qui allait se passer à l'avenir. La grande commission qui a été donnée a permis de garantir que le message que Christ a prêché lorsqu'il marchait sur la terre survivrait à sa vie physique. Cette grande commission garantissait que le message se poursuivrait même après la mort du Jésus-Christ vivant et humain. Et quel était ce message, frères ? Nous l'avons déjà vu, prêcher l'évangile et paître, ou nourrir, le troupeau. C'était le message de Christ. La grande commission, l'une des choses qu'il devait s'assurer que tout le monde observait était de s'assurer que ce message continuait. Ce sont les premières et deuxièmes commissions. La première commission est de prêcher l'Évangile. La deuxième commission est de nourrir ou de faire paître le troupeau. Si vous avez écrit cela plus tôt, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, effacez ce que vous avez écrit et écrivez-le. Prêcher l'Évangile est la première mission, et nourrir le troupeau est la seconde. Maintenant, avancez rapidement de 2000 ans. Il y a une organisation sur la face de la terre autorisée, c'est un mot-clé, autorisée, à exécuter cette grande mission. Il y a une organisation qui peut prêcher le véritable évangile du royaume de Dieu par le biais de la première mission, et une organisation qui s'assure que le troupeau de Dieu est nourri par le biais de la deuxième mission, et cette organisation est la seule véritable Église de Dieu. L'Église de Dieu est l'organisation qui est autorisée à exécuter la première et la deuxième commission. En tant que membre de l'Église de Dieu, frère, il est impératif, il est très important, il est vital, que nous comprenions la première et la deuxième commission. Tournez-vous vers Marc 16. Parlons davantage de la première commission. Marc 16. C'est la version de Marc de la grande commission. C'était à la fin de, c'était juste à la fin quand Christ était prêt à monter au ciel. Marc 16 verset 19, lisez ici, « Ainsi donc, après que le Seigneur leur eut parlé, il fut enlevé au ciel, et s'assit à la droite de Dieu. Et ils partirent, et prêchèrent partout, le Seigneur travaillant avec eux, et confirmant la parole par des signes ultérieurs. » J'ai lu cela pour montrer que c'était la dernière chose que Christ a faite avant de monter au ciel pour s'asseoir à la droite du Père. Quelle était l'importance de cette commission? J'ai dit qu'il était vital que nous la comprenions. Quelle importance? Si importante qu'elle a été l'une des dernières choses que Christ a transmises avant de monter au ciel. C'est très important. Verset 15. Nous allons remonter ici. Et il leur dit, « Allez dans le monde entier, et prêchez la bonne nouvelle à toute créature. » Donc, une fois de plus, nous voyons que la première commission est liée à l'Évangile. Ce n'est pas tout à fait ce qui est dit dans Matthieu. La première mission est donc liée à l'Évangile. Nous avons déjà dit qu'il s'agissait de prêcher l'Évangile. Qu'est-ce que l'Évangile? Qu'est-ce que cela signifie? C'est un mot familier. Mais qu'est-ce que l'Évangile? Eh bien, le mot apparaît plus de 100 fois dans la Bible, donc c'est évidemment un mot important, mais qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que c'est? Le mot « Évangile » vient de « Gospel ». Il signifie « bonne nouvelle ». D'accord? Donc si vous avez été dans l'Église de Dieu assez longtemps, vous le savez. Vous saviez que l'Évangile, ce mot, signifie « bonne nouvelle ». Quelle est cette bonne nouvelle? Eh bien, cela dépend de qui vous demandez. Cela dépend de la personne à qui vous demandez. Tournez-vous vers Galates. Quelle est la bonne nouvelle? Si vous posez cette question à tout le monde, vous n'obtiendrez pas la même réponse. Galates, chapitre 1, verset 6. Galates, chapitre 1. Verset 6, Paul aux Galates, « Je m'étonne que vous soyez si vite éloigné de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile, qui n'est pas un autre évangile, mais il y en a qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile du Christ. Mais si nous, ou un ange du ciel, vous annoncez un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. » Comme nous l'avons déjà dit, je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anéanti. Donc apparemment, il y avait, entre guillemets, un autre évangile qui était prêché. Il y a un autre évangile? Il y a plusieurs évangiles? Car maintenant je... Retournez au verset ici, verset 10, car maintenant, est-ce que je persuade les hommes, ou Dieu? Ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Car si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas le serviteur de Dieu, ou le serviteur du Christ. Donc clairement, manifestement, Il y avait plusieurs, ou au moins, plus d'un évangile, qui était prêché. Et apparemment, tout ce qui était prêché était fait pour plaire aux hommes, pour séduire les hommes, au lieu de plaire à Dieu. Ce qui est évidemment la priorité. Frères et sœurs, la vraie signification de l'évangile est l'un des plus grands mystères de tous les temps. L'un des plus grands mystères de cette planète est la signification du véritable évangile que décrit la Bible. Regardez le chapitre 15 des Corinthiens. 15 des premiers Corinthiens. C'est l'un des plus grands mystères. Vous savez ce qu'est un mystère. C'est quelque chose qui n'est pas connu. C'est l'un des plus grands mystères, alors même que je vous parle aujourd'hui. 15 premiers Corinthiens, verset 1. 1 Corinthiens 15, verset 1. D'ailleurs, frères, je vous annonce l'évangile que je vous ai prêché, que vous avez aussi reçu, et par lequel vous êtes dans la position où vous êtes, par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous gardez en mémoire ce que je vous ai prêché, à moins que vous n'ayez cru en vain. Car je vous ai transmis avant tout ce que j'ai aussi reçu, à savoir que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Maintenant, est-ce que cela dit, est-ce que ces quatre versets disent que l'Évangile est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ? C'est ce que disent ces versets? Je pensais que c'était ce que ces versets disaient avant que Dieu ne m'appelle. Si vous m'aviez demandé ce qu'était l'Évangile, j'aurais répondu. Et une fois que je me suis ressaisi et que quelqu'un m'a demandé, qu'est-ce que l'Évangile? J'aurais répondu que c'est la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus-Christ. Je ne sais même pas si j'aurais été capable de lire le verset, mais c'est ce que j'aurais dit. Est-ce bien ce que cela dit? Non. Une lecture attentive montre en fait que, cela montre clairement que la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus-Christ ne sont pas l'Évangile. Si vous regardez en arrière, il est dit, ici, plus encore. De plus, frères, je vous déclare, selon le verset 1, l'Évangile que je vous ai prêché, donc, je vous prêche l'Évangile, que vous avez reçu et par lequel vous êtes debout, par lequel vous êtes sauvés, ceci se réfère toujours à l'Évangile, si vous vous souvenez de ce que je vous ai prêché, à moins que vous n'ayez cru en vain. Car je vous ai d'abord transmis ce que j'ai aussi reçu, à savoir que... Et ensuite, il est question de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. L'Évangile a donc été enseigné, et si vous adhérez à l'Évangile, ou si vous adhérez à l'Évangile en vous rappelant que Christ est mort, a été enterré et est ressuscité pour vous. Ce n'est pas la même chose. Elles sont liées, mais elles ne sont pas une seule et même chose. Regardez Marc 1. Regardez Marc 1. Juste un verset ici, Marc 1, verset 1, le commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Maintenant, si vous croyez, si on vous a enseigné, que l'Évangile concerne la vie du Christ, vous montrerez ce verset et vous direz, voyez, voyez, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. L'Évangile signifie Jésus-Christ, l'Évangile équivaut à Jésus-Christ. Eh bien, frères, nous savons, nous avons été enseignés que ce n'est pas du tout ce que cela signifie. C'est l'Évangile que Christ a apporté. L'Évangile n'égale pas, ce n'est pas dire que l'Évangile est Christ, c'est dire l'Évangile du Christ, l'Évangile que Christ a apporté, la bonne nouvelle que Christ a apportée. Le royaume de Dieu ne dit pas que le royaume est Dieu, c'est le royaume de Dieu. Grande différence. L'Évangile ne concerne pas Christ. Il a été répondu, ou apporté, par Christ. C'est une grande différence. Donc si l'Évangile ne concerne pas Christ lui-même, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Marc, chapitre 1. Où, nous sommes toujours ici, Marc, chapitre 1, mais nous allons aller au verset 14. Marc 1, 14. Après que Jean eut été mis en prison, Jésus vint en Galilée, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et nous avons lu quelque chose de semblable tout à l'heure, et disant, « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. » Alors qu'est-ce que l'Évangile ? C'est la seule chose que nous venons de lire dans ces versets. Il ne s'agit pas du Christ lui-même. Que venons-nous de lire ? Que l'Évangile est le royaume de Dieu. Quand vous le voyez, vous ne pouvez pas ne pas le voir. Mais si vous ne le voyez pas, vous ne le voyez tout simplement pas. L'Évangile est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Christ était le porte-parole du Père. Il était le présentateur divin des nouvelles, comme le dit la littérature. C'est lui qui a apporté la bonne nouvelle, mais Christ lui-même n'était pas l'Évangile. Grande différence. Faire de Jésus-Christ, lui-même, l'Évangile est une perversion. Et nous lisons que ceux qui pervertissent l'Évangile sont maudits. Ils sont maudits. Malheureusement, tant de gens dans le monde pervertissent l'Évangile. Pire encore, le peuple de Dieu, certains « splinters », pervertissent également l'Évangile. Nous ne devrions pas être surpris. À qui Paul s'adressait-il en Galatie ? Il parlait au peuple de Dieu. Dans combien de temps ? Rappelez-vous, il a dit, n'oubliez pas l'Évangile. N'oubliez pas ce qu'est l'Évangile. Cela peut arriver. Cela arrive aujourd'hui, frères. Certains membres du peuple de Dieu, ceux qui ne sont pas le corps de Christ, les groupes dissidents, ne comprennent pas et ont perverti l'Évangile. Satan veut que l'Évangile soit perverti, bien sûr qu'il le veut. C'est le message que Christ a apporté, bien sûr, il veut que ce message soit perverti, qu'il soit dilué, qu'il soit boueux, qu'il soit obscur, qu'il ne soit pas clair. Bien sûr qu'il veut cela. Il ne veut pas que les gens se concentrent sur le royaume de Dieu. Il ne peut pas avoir cela. Il ne peut pas avoir cela. Il ne veut même pas que les gens connaissent le royaume de Dieu. Il préfère de loin que les gens, qui croient même à la Bible, croient qu'ils meurent et vont au ciel. Le royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est ? Et cela marche. La plupart des gens ne savent même pas, ils ne parlent pas du royaume de Dieu. C'est quelque chose que nous faisons ici dans l'Église, dans la véritable Église de Dieu. Qu'est-ce que le royaume de Dieu ? C'est cette bonne nouvelle du royaume de Dieu. Qu'est-ce que le royaume de Dieu ? Eh bien, le royaume de Dieu est le gouvernement de Dieu sur la terre entière. C'est le royaume de Dieu sur la terre entière. Dirigez-vous vers Matthieu 5. Matthieu, chapitre 5. Nous allons lire la première des quatre composantes qui composent tout royaume, tout gouvernement. Nous parlons, bien sûr, du royaume de Dieu, mais tout gouvernement, tout royaume, a quatre composantes. Nous allons donc lire la première de ces quatre composantes. La première est qu'il doit avoir des terres ou des propriétés qu'il couvre. D'accord ? Donc Matthieu, chapitre 5, verset 5. Heureux les doux, car ils hériteront de la terre. Nous voyons donc que la propriété du royaume de Dieu, la terre du royaume de Dieu, c'est la terre. Et le deuxième élément ? Daniel chapitre 7. Daniel. C'est si réconfortant, frères, de revenir en arrière, et pour beaucoup d'entre nous, de revoir ces choses, de nous établir dans ces vérités fondamentales. C'est si réconfortant de simplement revenir en arrière, de se laver et de se prélasser, si je peux utiliser ce terme, dans ces vérités fondamentales, mais tellement importantes. Daniel, chapitre 7. La deuxième composante de tout royaume, dans ce cas, le royaume de Dieu. Daniel chapitre 7, verset 18, Mais les saints du Très-Haut prendront le royaume, et posséderont le royaume pour toujours, même pour les siècles des siècles. La deuxième composante de tout royaume, ou gouvernement, est qu'il doit avoir un dirigeant ou un ensemble, un groupe de dirigeants. Dans ce cas, nous venons de lire que les saints sont les dirigeants. Nous sommes les saints, nous sommes les dirigeants. Nous sommes les dirigeants dans le royaume de Dieu, sous Dieu. La troisième composante. Apocalypse, chapitre 2. Apocalypse, chapitre 2, verset 26. Apocalypse, chapitre 2, verset 26. Et celui qui vaincra, et qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, donc il y a un qualificatif ici, à lui je donnerai le pouvoir sur les nations. La troisième composante de tout royaume, ou gouvernement, est qu'il doit y avoir des sujets. Il doit y avoir des personnes à diriger, à gouverner. Dans ce cas, il s'agissait des nations. Les gens de la terre, et les anges, différents versets là, seront tous nos sujets dans le royaume de Dieu. C'est impressionnant. C'est impressionnant. La quatrième composante de tout royaume, ou gouvernement. Jude 1. Allez au livre de Jude. Tout près. Verset 14. Jude 1, 14. Et Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé à leur sujet, en disant, voici que le Seigneur vient avec 10 000 de ses saints, pour exercer un jugement sur tous, et pour convaincre, ou convaincre, tous les impies parmi eux de leurs actions impies. Et ainsi de suite. Chaque royaume doit avoir des lois, et les lois sont utilisées pour rendre des jugements. La loi du pays dans le royaume de Dieu sera la loi de Dieu, pas la loi de l'homme. Nous voyons la loi de l'homme aujourd'hui, les lois de l'homme ne fonctionnent pas. Elles fonctionnent en quelque sorte, je veux dire, comparées à l'anarchie totale, mais elles finissent par s'effondrer. Les lois de Dieu fonctionnent. Elles ne s'effondrent pas dans le royaume de Dieu. Ces lois seront suprêmes. Donc nous avons une terre, des dirigeants, des sujets, et des lois. Et dans ce cas, dans le royaume de Dieu, tout cela relève du Dieu Tout-Puissant, et est délégué à ses saints, que nous nous efforçons tous de devenir. Et qui dit au monde que ce royaume existe et qu'il arrive? Qui fait cela? Frères et sœurs, c'est nous. C'est l'Église de Dieu. Nous sommes ceux qui annoncent aux gens cette bonne nouvelle. Nous sommes ceux qui ont été autorisés, qui ont été chargés de le faire, et nous le faisons. C'est en train de se produire. L'Église de Dieu, nous prêchons l'Évangile, le véritable Évangile, pas un Évangile perverti, pas un Évangile dilué, pas un Évangile obscur en quelque sorte. Quand j'ai été appelé, je pense à quand j'ai été appelé, dans l'Église de Dieu, Noël, Noël et ceux qui m'a accroché. Vous imaginez un poisson dans l'eau, qui voit un gros ver juteux, mais ne voit pas l'hameçon, j'étais ce poisson et Noël était le ver juteux. J'ai mordu dessus et j'ai été accroché. Mes frères, ce qui m'a attiré dans le bateau, c'est la signification du véritable Évangile. Je ne pouvais pas le croire. Je pensais savoir ce qu'était l'Évangile. Je n'étais pas un érudit de la Bible, mais je pensais que je savais définitivement ce qu'était l'Évangile. Et quand j'ai lu, et qu'on m'a expliqué ce qu'était l'Évangile, j'ai été stupéfait. J'étais abasourdi. Tirez-moi de ce bateau. J'ai été choqué. Je me suis tourné vers les premiers Thessaloniciens, chapitre 2. Premiers Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Mais comme Dieu nous a permis d'être chargés de l'Évangile, c'est Paul qui parle. De même nous parlons, non pas pour plaire aux hommes, mais à Dieu, qui éprouve nos cœurs. Je suis allé là, frère, pour faire remarquer que l'Église de Dieu, et l'organisation à qui l'on a confié l'Évangile, confié cette précieuse connaissance. L'Église de Dieu, en tant qu'organisation, en a été chargée. Il est important de le comprendre. Cela signifie que nous ne sortons pas individuellement pour apporter cette bonne nouvelle. Individuellement, en tant que membre individuel, nous ne sortons pas pour prendre cette bonne nouvelle et essayer de la répandre. Aussi bonne que soit la nouvelle, et aussi désireux que nous soyons d'en parler aux gens, et aussi enthousiastes que nous soyons à son sujet, chacun d'entre nous, individuellement en tant que membre, n'est pas autorisé à sortir et à faire ce que nous appelons du prosélytisme. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme. C'est un terme religieux. Mais, prosélyte, cela signifie prêcher, évangéliser, ou convertir. Ce n'est pas ce que nous sommes censés faire à un niveau individuel. Autant que nous puissions vouloir le faire, ce n'est pas ce que nous avons été autorisés à faire. Notre travail, en tant qu'individu, est de connaître l'Évangile et de le poursuivre. Luc 16. Notre travail est de connaître l'Évangile, de savoir ce qu'il est, ce qu'il signifie, et de le poursuivre. Luc, chapitre 16, verset 16, « La loi et les prophètes ont été jusqu'à Jean, depuis ce temps-là, le royaume de Dieu est prêché. Donc depuis lors, nous verrons ceci et entendrons parler de ce royaume de Dieu qui est prêché. Et tout homme s'y presse. C'est quelque chose que nous sommes tous censés faire individuellement. Chaque homme s'y presse. En tant que membre, individuellement, nous devons poursuivre ou nous presser dans l'Évangile. C'est une responsabilité individuelle pour chacun d'entre nous. Mais c'est le travail des dirigeants de l'Église de répandre l'Évangile de manière directe. C'est le travail des dirigeants de l'Église. J'ai appris l'Évangile par l'intermédiaire de l'Église, par la littérature que j'étais autorisé à lire et à comprendre. Et c'est de cette manière qu'il devait m'être transmis. Si quelqu'un, je suppose, si quelqu'un, un individu, était venu me voir et avait essayé de m'expliquer que l'Évangile n'était pas la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus-Christ, je l'aurais envoyé promener. De quoi parlez-vous? Tout le monde le sait. Mais c'était dans, à travers la littérature de Dieu, et je ne le cherchais même pas vraiment, j'étais juste en train de le lire et il s'est insinué en moi, et j'ai pris ma Bible, et j'ai lu et j'ai dit, oh, oh là là! C'est l'Évangile du royaume de Dieu. L'Église est autorisée à apporter l'Évangile, à répandre l'Évangile. Comme je l'ai dit, cela se fait par la littérature, par les sites web de l'Église, par les magazines et le matériel sur papier. Matthieu 10, verset 7. Matthieu 10, verset 7, « Et quand vous irez, prêchez, en disant, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Tout le matériel de l'Église est gratuit. Frères et sœurs, ne laissez pas cela vous échapper. Je dois moi-même m'en souvenir. Tout le matériel de Dieu, toute sa littérature, en version papier, numérique, ces précieuses vérités sont gratuites pour le public. Elles sont gratuites. Quiconque dit que l'Église de Dieu n'est qu'une question d'argent doit repenser cet argument. Nous devons être confus. Nous donnons des choses gratuitement. Et pourtant, nous ne pensons qu'à l'argent. La mission de l'Église, comme la mission du Christ lorsqu'il marchait sur la terre, était d'obéir à la première commission, et de prêcher l'Évangile. Prêcher l'Évangile. Qu'en est-il de la deuxième commission? Qu'en est-il de la seconde mission? La deuxième mission est de nourrir le troupeau. Nourrir le troupeau. Jean 21, verset 15. Jean 21, verset 15. Quand ils eurent dîné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, M'aimes-tu plus que ceci ? Et il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Christ lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit encore une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, tu m'aimes ? Et il lui dit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Christ lit l'amour de lui, l'amour de Dieu, l'amour de tout ce qu'il a enseigné, l'amour de toutes ces choses, il lit cela directement au fait de nourrir ses brebis. Cela a dû frapper comme une enclume. Il l'a dit trois fois. Regardez acte 20. Acte 20. Qu'est-ce que cela signifie de nourrir le troupeau ? Acte 20, verset 28. Acte 20, verset 28. Prenez garde à vous-même, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi surveillant, on dirait presque qu'il s'adresse à un responsable, pour paître l'Église de Dieu, qu'il a acquise par son propre sang. Cela le rend très précieux. 1 Pierre, chapitre 5. Nous nous rapprochons ici. Qu'est-ce que nourrir le troupeau ? 1 Pierre, chapitre 5, verset 1. 1 Pierre, chapitre 5, verset 1, j'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis aussi un ancien, témoin des souffrances de Christ, et participant de la gloire qui doit être révélée, paissez le troupeau de Dieu qui est au milieu de vous, en le surveillant, non par contrainte, mais de bon gré, non pour, de l'argent ou, un lucre sale, mais avec empressement, non comme des seigneurs de l'héritage de Dieu, mais comme des modèles pour le troupeau. Et quand le chef des bergers paraîtra, vous recevrez une couronne de gloire qui ne se fane pas. Ce message de nourrir le troupeau est évidemment un message destiné au ministère. Dieu veut que son ministère nourrisse le troupeau, tout comme Christ l'a fait lorsqu'il marchait sur la terre. À qui la grande commission a-t-elle été donnée directement ? Elle a été donnée aux disciples, aux hommes qui sont devenus des ministres, des anciens. Dans le monde, les ministres se nourrissent eux-mêmes. Ils ne nourrissent pas le troupeau, ils se nourrissent eux-mêmes, parfois, ils mangent les moutons. Ils mangent les moutons, ils profitent d'eux, ils les traient. Si vous pensez aux catholiques, l'Église catholique, les bâtiments sont si élaborés, ornements, or, et ils sont dans les endroits les plus pauvres du monde. Vous pensez à des hommes, certains ministres protestants, avec des jets, des maisons somptueuses, de nombreuses voitures, des comptes bancaires avec des millions de dollars. Ils mangent les moutons, ils battent les moutons. Techniquement, ce ne sont pas des moutons, mais ils battent les gens, ils profitent d'eux. Dieu a dit de nourrir, pour les anciens, les ministres, de nourrir les brebis, pas de se nourrir eux-mêmes. J'ai fréquenté une église qui faisait payer 20 dollars pour le message. Après le message, vous allez, vous faites la queue, pour avoir le privilège de payer 20 dollars pour entendre ce que vous venez d'entendre. Et c'était au rabais. C'est pathétique, honteux. C'est carrément cupide. C'est juste profiter de la situation, je veux dire, allez, vraiment ? 20 dollars ? Mais c'est vrai. C'est vrai. L'Église de Dieu est restée fidèle en nourrissant le troupeau. C'est ce que nous faisons. C'est ce que fait l'Église de Dieu. Si vous vous souvenez de la Grande Commission, Christ a dit que les disciples devaient enseigner aux autres les choses que Christ leur a enseignées. C'est ce qui fait de nous l'Église de Dieu. Jean, chapitre 6. De quoi sommes-nous nourris ? Jean, chapitre 6. Nous pouvons comprendre l'analogie avec le fait d'être nourris, mais de quoi s'agit-il ? Jean, chapitre 6, nous le reprendrons au verset 32. Jean 6, 32, alors Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné ce pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel, et qui donne la vie au monde. » Alors ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Et Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Frères et sœurs, nous sommes nourris du pain de vie, des paroles de Dieu, Christ lui-même, c'est ce que nous mangeons, c'est ce que nous mangeons spirituellement, et nous n'avons ni faim ni soif si nous continuons à le manger. Dieu nous nourrit en fonction de notre niveau de maturité. Hébreux, chapitre 5. Dieu nous nourrit en fonction de notre niveau de maturité. Hébreux, chapitre 5. Allons d'abord à 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2, puis nous irons à Hébreux 5. Mais allons d'abord à 1 Pierre, chapitre 2. Comme je l'ai dit, Dieu nous nourrit en fonction de notre niveau de maturité. 1 Pierre, chapitre 2, verset 2, « Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait sincère de la parole, afin que vous croissiez par là. » Et je vais là pour comprendre que, lorsque nous venons dans l'Église de Dieu, lorsque nous nous développons, lorsque nous sommes nouveaux, tout est nouveau. Nous ne comprenons pas beaucoup de choses. Et Dieu comprend cela, et comme un bébé qui doit être nourri, qui vient juste de venir au monde et qui n'a pas le système digestif physique, pour être capable de gérer certains aliments. La mère donne à cet enfant quoi ? Du lait. Dieu n'est pas différent. Cette analogie, ici, explique que nous prenons le lait sincère de la parole pour nous nourrir. Dieu nous nourrit en fonction de notre niveau de maturité, mais, frère, je bois encore du lait, physiquement. J'aime le lait. Le lait blanc, le lait au chocolat, le lait à la fraise, j'aime le lait. Nous ne devrions jamais nous éloigner du lait. Aussi important qu'il soit au début, il devrait toujours faire partie de notre régime alimentaire. Nous ne devrions jamais être trop gros pour le lait, trop vieux pour le lait. Maintenant, allons aux Hébreux, chapitre 5. Hébreux, chapitre 5. Une grande partie de ce que vous entendez aujourd'hui concerne le lait. Hébreux, chapitre 5, verset 12. Hébreux, chapitre 5, verset 12. Car, quand vous devriez être des maîtres, vous avez besoin qu'on vous enseigne de nouveau quels sont les premiers principes des oracles de Dieu, et vous êtes devenus tels que vous avez besoin de lait, et non de viande forte. Donc maintenant nous entendons, nous voyons, quelque chose d'autre au menu ici, pas seulement du lait. Et non de viande forte. Car quiconque se sert de lait, n'est pas habile dans la parole de la justice, car il est un bébé. Mais les viandes fortes appartiennent à ceux qui sont majeurs, à ceux qui, par l'usage, ont les sens exercés à discerner le bien et le mal. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas rester au lait. Nous ne pouvons pas rejeter le lait, c'était mon point précédent, mais pour ceux d'entre nous qui sont prêts, et se développent, nous devons comprendre que nous devons éventuellement passer à la viande. Nous ne pouvons pas le précipiter. Nous ne pouvons pas précipiter le processus, mais nous ne pouvons pas non plus, ou ne devrions pas, rester bloqués au lait. Au bout du compte, notre maturité spirituelle devrait être telle que nous pourrons passer à la viande forte. La prophétie serait un exemple de viande forte. Si vous êtes venu dans l'Église de Dieu au cours des 5 ou 6 dernières années, vous avez entendu beaucoup de viande forte, et vous pouvez vous demander, « Oh là là, est-ce toujours comme cela ?» Non. Monsieur Pack l'a dit. Non, ce n'est pas le cas, et nous avons nos messages archivés pour le prouver. Mais nous sommes à une période, frères, de viande très forte. Et nous avons parlé de ces doctrines et principes établis que Christ a enseignés, et surtout si vous êtes plus récent, vous pouvez voir que nous parlons de la prophétie, et que certains éléments de celle-ci sont évidemment établis, d'autres éléments peuvent changer. C'est ce qui peut en faire de la viande forte. Parce que, qu'est-ce qui en fait de la viande forte? Il y a des éléments pour essayer de comprendre, que ce soit l'hébreu ou le grec, de le comprendre. C'est un niveau. Un autre niveau est de savoir comment tout cela s'assemble. Bien, vous pouvez comprendre les mots, mais comment les mots s'accordent-ils avec ces mots, ces mots et ces mots? Et un autre élément est de le comprendre pleinement et de l'épingler. Combien de fois avons-nous entendu cela? Ce truc est difficile à cerner. C'est ce qui en fait une viande forte. Ce n'est pas du lait. Ce n'est pas, le sabbat est le septième jour. Ce n'est pas, ne fêtez pas Noël. Ce n'est pas très difficile à comprendre. C'est difficile à faire, cela dépend de votre famille et de votre situation, mais ce n'est pas difficile à comprendre. La prophétie, c'est beaucoup plus difficile. La prophétie a toujours été destinée à être partiellement comprise avant le retour du Christ. C'est ce qui en fait une viande forte. Mais nous ne pouvons pas éviter la viande forte. Ce n'est pas parce que c'est difficile, que nous devons nous y soustraire en tant que peuple, sachant que nous avons un large public dans l'Église, des gens qui en sont à leur premier sabbat et d'autres qui sont ici depuis 50 ans. Nous avons parlé de la façon dont le troupeau est nourri, ou de ce qui nourrit le troupeau, parlons de la façon dont le troupeau est nourri. L'enseignement. Je vous enseigne en ce moment même. Il se trouve que je le fais en prêchant. Mais pensez à toutes les différentes manières dont le peuple de Dieu est enseigné. Nous sommes enseignés dans les sermons et les sermonettes, nous sommes enseignés dans les articles, la littérature, toutes sortes de manières dont nous sommes enseignés. Nous ne sommes pas appelés disciples pour rien. Un disciple est un étudiant. Par définition, nous sommes enseignés. Il y a les écrits que j'ai mentionnés, toutes les façons dont nous sommes nourris. Quelles sont les autres façons dont nous sommes nourris, dont l'Église nourrit le troupeau? La planification de la fête, l'organisation d'une fête. C'est un cauchemar logistique, certains diraient même un cauchemar. C'est un cauchemar amusant, mais il peut être très complexe. Organiser des fêtes dans le monde entier, s'assurer que tout le monde a une place, s'assurer que les hôtels et tout le reste sont réservés, que tous les détails sont réglés. Tous les hôtels, la communication, toute la correspondance qui doit être envoyée, c'est une tâche énorme, énorme. Ce sont tous des moyens par lesquels l'Église de Dieu nourrit le troupeau. Organiser un camp de jeûnes, sécuriser les installations, déterminer ce que les enfants vont faire chaque jour, ce n'est pas facile, et s'assurer qu'ils sont physiquement nourris. Ils veulent certainement cela. Organiser une conférence ministérielle. Ce sont toutes des façons pour l'Église de Dieu de nourrir le troupeau. Dans ce cas, nous nourrissons les bergers pour qu'ils aillent nourrir le troupeau, lors de la conférence ministérielle. Cela doit être planifié. Nous devons nous assurer que les vols sont alignés. Si les hommes assistent à la conférence à distance, nous devons nous assurer que toute la logistique est en place en termes de fuseaux horaires, et qu'ils peuvent se connecter via Microsoft Teams pour pouvoir voir la vidéo, pour s'assurer qu'ils sont nourris physiquement, l'installation qui se fait dans le hall principal, la préparation du grand jardin. Toutes ces choses sont liées et montrent et démontrent comment l'Église nourrit le troupeau. L'hébergement des sites web, quelque chose que, à moins de le faire ou d'en savoir beaucoup sur les sites web, vous pourriez penser qu'ils se créent tout seuls, qu'ils sont mis à jour tout seuls, que les choses apparaissent toutes seules. Ce n'est pas comme cela que cela fonctionne. Quelqu'un, des personnes, beaucoup de personnes, s'assurent. En fait pas tant que cela. Des personnes s'assurent que tout cela est pris en charge. Ce sont tous des moyens par lesquels l'Église nourrit le troupeau. Ces sites web contiennent des milliers d'articles, des centaines de sermons, qui sont tous maintenus et là, pour que nous puissions y aller à tout moment de la journée, autant que nous le voulons, nous pouvons nous gaver, juste un buffet de nourriture spirituelle à manger. Et tout cela est là sur les sites web qui sont maintenus par l'Église de Dieu à travers la seconde commission. Toutes les façons dont l'Église de Dieu nourrit le troupeau. L'Église de Dieu est vraiment. Et je ne cite que quelques exemples. Je pourrais continuer. Je pourrais parler du processus vidéo. Je peux juste parler d'eux, j'ai mentionné que le campus de Dieu doit être maintenu. Tout cela fait partie de la deuxième commission, et finalement de l'accomplissement du travail. Toutes ces étapes sont très importantes. L'Église de Dieu obéit à la deuxième commission de nourrir le troupeau comme Christ l'a ordonné. Mais, frère, c'est une chose de comprendre ce que sont les commissions, peut-être, vous saviez tout ce que j'ai mentionné, j'ai peut-être mentionné quelque chose que vous avez oublié, ou que vous avez assis et pensé de la même manière. Et c'est ce que je voulais dire. Mon but était soit de vous rappeler, soit de vous présenter et de vous aider à comprendre ce que sont la première et la deuxième commission, ce qu'elles signifient, d'où elles viennent, comment elles sont nées, ce que Christ voulait. C'était mon but, de faire cela. Mais c'est une chose de comprendre ce que sont les commissions, c'en est une autre de revenir à la question difficile avec laquelle j'ai commencé, comment chacun d'entre nous s'y intègre-t-il ? Cette partie n'est pas si facile à voir. Comment chacun de nous s'intègre-t-il dans la première et la deuxième commission ? Vous pouvez penser que Christ a laissé la grande commission aux disciples, et cela, encore une fois, concerne finalement les hommes qui sont devenus ministres. C'est à eux de le faire. Quelle est ma place dans tout cela ? Eh bien, frère, cette question soulève un énorme problème potentiel qui peut se produire. Elle pose un énorme problème potentiel, et j'ai donné un nom à ce problème, je lui ai mis une étiquette. Je l'appelle la grande déconnexion. La grande déconnexion. Qu'est-ce que cela veut dire ? Je n'ai jamais entendu parler de cela. Qu'est-ce que la grande déconnexion ? D'un point de vue académique, nous pouvons savoir ce que sont la première et la deuxième commission. Nous pourrions les connaître académiquement, et il est important de les connaître, de pouvoir parcourir les Écritures et de pouvoir trouver ce que Christ a identifié, ce qu'elles sont, et vous donner des exemples de ce qui est fait aujourd'hui, même par l'Église de Dieu, pour parler de leur importance. Toutes ces choses sont certainement importantes. Nous devons les connaître de manière académique, mais, frères, si nous ne les connaissons que de manière académique, cela peut créer cette déconnexion. Nous pouvons cesser de voir comment nous nous intégrons individuellement dans tout cela. Nous pouvons presque devenir des spectateurs qui regardent tout ce qui se passe devant nous, sans nous engager pleinement et sans nous considérer comme faisant partie de tout cela. Cela pourrait devenir facile. Si vous êtes sur le terrain, il pourrait devenir facile de vous déconnecter et de voir c'est ce qu'ils font au siège. J'aime cela. Je l'apprécie. Mais c'est ce qu'ils font au quartier général pour remplir la première et la deuxième commission. Si vous êtes ici, au siège, vous pouvez tomber dans le piège du 9 à 5 je vais et je pointe à l'horloge. Vous ne le dites peut-être pas comme cela, mais dans les faits, vous vous dites, c'est juste un travail. J'arrive à l'heure. Je fais mon travail. Je fais ce qu'on me dit. Mais si nous ne faisons pas attention, nous pouvons tomber dans une déconnexion et ne pas réaliser où nous sommes et ce que nous faisons. C'est juste un autre 9 à 5. L'une des choses les plus importantes que Christ a faites, et j'ai mis l'accent dessus lorsque nous y sommes arrivés, l'une des choses les plus importantes que Christ a faites au moment où son ministère commençait, c'était quoi ? Il est allé et il a choisi et sélectionné des individus pour l'aider. Il est Dieu. Il aurait pu le faire lui-même, mais il a spécifiquement, avant même de commencer, il est allé et il a choisi des hommes, dans ce cas, des hommes, finalement des femmes, pour l'aider à remplir la mission de faire toutes les choses qu'il voulait faire. Dans ce cas, il a choisi 12 personnes, et ensemble ils ont changé leur communauté, ils ont fini par changer leur nation, et finalement, ils ont changé le monde entier. Ils sont en train de changer, leur travail est en train de changer le monde entier. Il a changé le monde entier. Demandez-vous, quel rôle je joue individuellement? Quel rôle est-ce que je joue? Posez-vous cette question. Quel rôle est-ce que je joue? Pas seulement ceux d'entre nous qui sont dans cette pièce au siège, mais dans le monde entier. Quel rôle est-ce que je joue? Si vous ne le faites pas, frère, je vais vous le dire, si vous ne pensez pas que vous jouez un rôle, alors ce que vous dites est l'une de plusieurs choses. Premièrement, mes prières ne servent à rien, mes dîmes et mes offrandes ne veulent rien dire, venir aux offices et fraterniser avec les frères est une perte de temps, aller à mon travail et refléter le mode de vie de Dieu est tout à fait vain, vivre le mode de vie de Dieu avec mon conjoint, qu'il soit dans ou hors de l'Église est tout à fait inutile, former mes enfants pour qu'ils soient de futurs membres de l'Église, est une mascarade. Dois-je continuer? Je pourrais continuer. Si nous avons du mal à voir où, et comment nous nous situons dans la première et la deuxième commission, frères, ce sont toutes des choses qui n'ont aucun sens. Elles ne signifient rien. Soit nous les faisons par cœur, soit nous les faisons pour des raisons auxquelles nous ne pensons même plus. Frères et sœurs, chaque chose que vous et moi faisons dans l'Église de Dieu favorise la première et la deuxième commission. Toutes ces choses que j'ai nommées, et bien d'autres encore, favorisent la première et la deuxième commission. Si vous êtes au siège, ne voyez pas cela comme, si vous travaillez ici, ne voyez pas cela comme un autre travail. Ce n'est pas seulement un autre travail. Vous pourriez aller ailleurs et gagner plus d'argent, faire d'autres choses. Ne voyez pas cela comme un autre travail. Voyez cela comme le privilège qu'il représente. C'est ce que je me dis à moi-même. Si vous êtes sur le terrain, combattez la pensée que c'est juste le ministre sur la vidéo, ou juste le ministre sur mon pastorat, juste toutes ces personnes plus jeunes qui font ces choses, ou toutes ces personnes qui retournent dans le monde entier, ou toutes ces personnes qui semblent connaître chaque élément de leur Bible, je n'ai aucun rôle à jouer. Combattez cette façon de penser. Nous avons tous un rôle à jouer. Messieurs les ministres, je vous le dis, ne perdez pas de vue le privilège que vous et moi avons de nourrir le troupeau d'une manière plus directe. Pensez au privilège que cela apporte. 1 Corinthiens, chapitre 12. 1 Corinthiens, chapitre 12. Passons à une série de versets qui, si nous n'y prenons garde, pourraient nous faire manquer un point très important. 1 Corinthiens, chapitre 12. Nous allons lire plusieurs versets ici. 1 Corinthiens, chapitre 12. Nous reprendrons au verset 12. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 12. Car, comme le corps est un, et a plusieurs membres, et que tous les membres de ce corps, étant nombreux, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous sommes donc, dès l'entrée, en train de voir Christ comparé à un corps. Car c'est par un seul esprit que nous avons tous été baptisés pour former un seul corps, soit juif, soit païen, soit esclave, soit libre, et que nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Car le corps n'a pas un seul membre, mais plusieurs. Pensez à votre corps. Je pense à mon corps. Mon corps est composé de plusieurs parties, de plusieurs membres, comme il est dit ici dans la King James. Si le pied dit, parce que je ne suis pas la main, je suis hors du corps, est-il donc hors du corps? Et si l'oreille dit, parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps, n'est-elle donc pas du corps? On a l'impression que ces parties pensent, je ne suis pas digne d'être considéré comme une partie du corps. Elles ne le font pas, juste, je ne suis rien. Je ne suis pas si important que cela. 17. Si le corps entier était un œil, où étaient les oreilles? Si tout le corps était une ouïe, où était l'odorat? Mais maintenant, Dieu a placé les membres, chacun d'eux, dans le corps, comme il lui a plu. Nous sommes tous là où nous devrions être. Que ce soit dans cette pièce ou dans le monde entier, nous sommes placés là par Dieu comme cela lui plaît, comme il lui a plu. Et s'ils étaient tous un seul membre, verset 19, où était le corps? Mais maintenant il y a plusieurs membres, et cependant un seul corps. 21. Et l'œil ne peut dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Non, à plus forte raison les membres du corps, qui paraissent plus faibles ou plus nécessaires, c'est donc le contraire. C'est un discours plus confiant, ou arrogant, entre les parties du corps. Nous venons de voir l'humble, oh je ne suis pas vraiment quelque chose, mais maintenant nous voyons aussi, oh, tu es juste, tu es juste. Toutes les parties sont importantes. 23. Les membres du corps que nous estimons moins honorables, nous les honorons plus abondamment, et nos parties ingrates ont plus de beauté. Car nos parties agréables n'ont pas besoin de nous, mais Dieu a tempéré le corps ensemble, le tempérant, le resserrant, ne faisant qu'un, en donnant plus d'honneur à la partie qui manquait, afin qu'il n'y ait pas de schisme dans le corps, mais que les membres aient le même soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui, ou si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Or vous êtes le corps du Christ, et des membres en particulier. Pensez à cela, frères. Pensez au corps du Christ, rassemblé par l'Esprit de Dieu. Nous pouvons être des membres dispersés, nous pouvons être partout dans le monde, mais nous sommes tempérés ensemble comme un seul corps. Et quel est le but? J'ai dit qu'il y a un point que nous pourrions manquer. Quel est ce point? Christ est quoi? La tête de l'Église. Les têtes ont un corps. Nous sommes ce corps. Nous sommes ce corps. Quand Christ a marché sur la terre, il avait évidemment un corps, et il est allé faire quoi? Prêcher l'Évangile, nourrir le troupeau comme un berger. Nous l'avons vu. Eh bien, quand il est parti, nous sommes devenus ce corps. Nous sortons, avec lui comme tête. Nous faisons les choses qu'il faisait quand il marchait sur la terre. Nous, en tant que son Église, nous faisons les choses qu'il faisait lorsqu'il était ici pour changer le monde. Frères et sœurs, maintenant nous changeons le monde. Nous avons l'opportunité de changer le monde, en tant qu'Église de Dieu. Nous sommes ce corps. Nous sommes les yeux, les coudes, les genoux, les doigts, les orteils et les dents. Il s'agit de nous tous et il n'est pas nécessaire que l'un d'entre nous ait l'impression de ne pas être digne, ou de n'être qu'une partie peu commune. Et nous ne devons certainement pas penser que nous sommes tout cela si nous sommes d'autres parties du corps. Nous sommes tous trempés ensemble, et nous sortons tous et continuons à faire ce que Christ a fait quand il marchait sur la terre. C'est une chose magnifique. C'est une chose merveilleuse à comprendre. Et qu'a fait Christ lorsqu'il a marché sur la terre? Il a accompli la première et la deuxième commission. Frères et sœurs, c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. Nos prières comptent. Où que nous soyons, aussi simples que soient ces prières, si elles sont sincères, elles comptent. Nos dîmes et nos offrandes comptent. S'il s'agit d'un dollar, et que c'est tout ce que nous avons, et que c'est 10% de notre revenu, en pensant à un enfant, bien sûr, c'est important. Ou même simplement à l'obol de la veuve, c'est important. Il compte. Cela compte. Notre présence aux réunions sociales, Notre présence au service du SEBA, cela compte. C'est important. Vivre la vérité, vivre selon le mode de vie de Dieu en tant que lumière pour le monde, cela compte. Nous avons tous, chacun d'entre nous, dans cette salle, dans le monde entier, dans une salle où vous êtes assis, dans votre salon où vous êtes assis, nous avons tous un rôle à jouer. Nous sommes tous le corps du Christ. Christ est la tête, nous sommes son corps. Ne l'oubliez jamais, frère. Ne l'oubliez jamais. Quelques réflexions pour conclure. Pensez à la vie et au but du Christ. Il est venu en tant que porte-parole. Il a revêtu la chair, en tant que Dieu, il a revêtu la chair, il est venu sur terre. Il est venu prêcher l'évangile, la première mission, et il est venu nourrir le troupeau, la deuxième mission. Mais sa mission ne s'est pas terminée à sa mort. Lorsqu'il a quitté la terre pour retourner au ciel, et s'asseoir à côté du Père, sa mission n'était pas terminée, elle n'était en fait que le début. Il a laissé aux disciples de son Église la grande mission. Et cette grande commission est composée de la première et de la deuxième commission. Frères et sœurs, nous sommes le corps de Dieu, le corps du Christ, nous sommes la continuation de son dessein, la première et la deuxième commission. Nous avons chacun un rôle à jouer et elles sont notre plus grande responsabilité.